Rencontre spirituelle aujourd'hui sera question de Marie Barbier. C'est une des premières Montréalaises. Elle est morte en 1739 et elle est née ici à Ville-Marie d'un père absolument remarquable qui était un des bras droits de Maisonneuve, dont je vous ai parlé lundi dernier lors de la célébration de l'anniversaire de la fondation de Montréal, le 17 mai. Hier, nous avons fait connaissance de Marie de Laferre, qui a fondé les Sœurs hospitalières de Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu, et qui ont tant apporté à Ville-Marie et à Montréal. Et aujourd'hui, Marie Barbier, elle, c'est la première à être entrée de Montréal là, dans la congrégation Notre-Dame, fondée ici à Montréal par Sainte Marguerite Bourgeois. Et elle lui a même succédé pendant quelques années. À l'âge de 30 ans, toute jeune encore, elle a été supérieure générale du vivant même de Sainte Marguerite Bourgeois. C'est une mystique canadienne, Marie Barbier, mais une mystique, elle est pied-à-terre. Elle est très spéciale. Elle est née à une époque où, souvent, il y avait, comme je vous l'ai raconté, des escarmouches épouvantables entre les Montréalais, et qui n'étaient pas nombreux, et les Iroquois. Et quand l'ennemi amenait les blessés, les Français étaient abandonnés ou achevés en cours de route. Et il arrivait d'ailleurs aux Montréalais, guidés par leurs chiens, je vous l'ai dit l'autre jour, des dogs, comme on disait. Et il arrivait avec ces chiens-là de découvrir les cadavres mutilés de leurs camarades. C'était terrible. En août 1661, d'ailleurs, je le rapporte, un jeune sulpicien intelligent et énergique, l'abbé Lemaître ou Monsieur Lemaître, a été surpris à la ferme Saint-Gabriel, qui existe toujours, à la Pointe-Saint-Charles, c'est devenu un musée des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Il a été surpris, donc, sur cette ferme avec un groupe de travailleurs. Il a été tué et décapité, ce sulpicien, ce jeune sulpicien très prometteur. Et deux mois après, son confrère, Monsieur Vignal, un prêtre encore, qui le remplaçait comme économe du séminaire, est pris dans des conditions, la même chose, des conditions analogues, avec d'autres Français. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été rôtis et mangés. Vous direz que ça n'a pas de sens commencer une émission comme ça. C'est pour vous dire dans quelle situation se déroule la Fondation de Montréal et comment Marie Barbier, dont il est question aujourd'hui, dans quel monde elle a grandi. La série sanglante ne s'est pas terminée comme ça. En février 1662, c'est Lambert Clos, qui est assisté de Louis Prudhomme, l'ancêtre d'un des animateurs de Radio Ville-Marie, Robert Prudhomme. Lambert Clos, héros de 20, de 30 exploits, souvent avec Louis Prudhomme, qui tombe en secourant, lui, en 1662, des colons qui sont attaqués. Il laisse une veuve de 19 ans puis une petite fille de 2 ans, ce Lambert Clos. J'y ai déjà consacré une émission. Afin d'organiser la protection des travailleurs des champs, la Maisonneuve institue, par ordonnance de 1663, une sorte de confrérie militaire, sous le nom de Milice de la Sainte Famille. Je vous en avais parlé, puis elle était divisée en 20 escouades de 7 volontaires, dont chacune élit son caporal. La 12e était dirigée par Louis Prudhomme, et la 6e était dirigée comme caporal par Gilbert Barbier, le père de Marie Barbier, dont il est question aujourd'hui. Pour ajouter à toutes ces calamités, je vous l'ai déjà parlé un peu de ça, il y a eu un tremblement de terre épouvantable. Faudrait bien que je consacre presque une émission à ce tremblement de terre. C'est tellement un événement incroyable en 1663. Les secousses sismiques qui sont accompagnées d'aurores boréales, de chutes, de bolides, puis d'autres curieux phénomènes naturels. Mais ces secousses sismiques se sont prolongées pendant plusieurs mois et les Montréalais ont redoublé évidemment de piété, d'austérité, de pénitence et Marguerite Bourgeois a donné l'exemple. Et c'est le 1er mai 1663, plein dans ce temps-là, qu'est né et baptisé le dernier enfant de ce menuisier, marguillier, caporal extraordinaire qui est Gilbert Barbier. Sa fille est baptisée Marie, et vous ajoutez que sa mère s'appelait Catherine de Lavaux, et puis Marie Barbier est décédée à Montréal le 19 mai, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1739, à 76 ans. Hein. Elle a été la première Montréalaise à entrer donc dans la congrégation de Marguerite Bourgeois, je vous le rappelle. Marie Barbier, c'est une enfant, petite Montréalaise, qui est peut-être pas tellement jolie, mais elle est bien campée sur ses jambes. Comme on dit, c'est une petite plante élevée en plein air. Elle est vivace, elle est trapue. Elle ne peut encore se soucier des angoisses des siens. Elle peut même pas les comprendre. C'est une petite fille espiègle, elle est toute petite, là. Elle entraîne les filles, les garçons de son âge. Elle a du caractère. Elle les entraîne dans toutes sortes de parties de plaisir où sans rime ni raison, parce qu'on est jeune, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce que l'on tombe et que l'on se ramasse, ou parce que on a le visage fouetté, puis par les vents et tout ça, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux Montréal, hein. Elle a les cheveux bourriffés par le vent, bien, tous ces enfants-là avec elle courent à perdre haleine, on rit à perdre la tête. Marie Barbier aime à vivre. C'est une petite fille bien spéciale. Avec 5 jeunes enfants, 3 filles et 2 garçons, la pauvre Madame Barbier a du fil à retordre, et environ le temps où naît Marie, Madame Barbier confie l'aînée, son aînée qui s'appelle Adrienne, aux hospitalières de Jeanne-Mance. Les hospitalières de Saint-Joseph, Mère Massé d'ailleurs, la première arrivée, la prise en affection, puis on achève de l'élever à l'Hôtel-Dieu. L'aînée est aussi la plus jolie, on l'appelle la belle de Ville-Marie. Elle est si jolie que les plus beaux gars ne lui manquent pas, hein. On la marie de bonne heure. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de relations sexuelles comme aujourd'hui. Hein? On la marie de bonne heure. Et comme pour se conformer à une tradition du vieil artisanat français, le père lui fait épouser un homme de sa profession, le maître charpentier Étienne Trudeau. C'est les noms qu'on retrouve, n'est-ce pas? On connaît des Trudeau, n'est-ce pas? Et elle a 14 enfants qui ont eu à leur tour beaucoup d'enfants, et ainsi de suite, et de sorte que les descendants de Gilbert Barbier par sa fille Adrienne sont aujourd'hui innombrables presque. Au moment des noces, la petite Marie Barbier n'a que 4 ans. Elle va tout naturellement à l'école de la sœur Bourgeois, Marguerite Bourgeois. Les sœurs s'occupent d'elle, et plus que d'une simple élève, afin de décharger un peu la mère qui est accablée de besogne. Ce n'est pas une école pour rire que celle de sœur Bourgeois. On y reçoit de bons exemples, on y apprend à bien se conduire, et Marguerite Bourgeois, c'est d'accord la bonté faite femme, elle ne sait rien garder pour elle-même. Mais elle est un peu sévère, elle exige l'obéissance d'abord. Elle s'étonne que l'on puisse manquer de confiance en Dieu. Elle blâme la coquetterie, elle n'aime pas ça. Elle s'impose à elle-même des mortifications puis des pénitences. Et elle choisit d'ailleurs les mets qui plaisent le moins à son goût aux Sainte Marguerite Bourgeois. Elle les prend très froids ou très chauds. Même, elle va jusqu'à les délayer, les sauces dans de l'eau. Je sais pas si je devrais raconter ça, mais enfin, c'était dans la mentalité, dans la spiritualité du temps. Il faut pas lui en vouloir. Elle verse dans son assiette de la poudre amère, dont elle a toujours une provision. D'ailleurs, elle mange peu. Elle ne fait qu'un seul repas le vendredi. Elle s'entraîne à ne boire qu'une fois par jour, même aux plus fortes chaleurs de l'été, ce qui est pas tellement bon pour la santé. Elle prend souvent ses repas debout. Ça se faisait encore dans les monastères. Dans les années 40, on prenait le premier repas du matin, le déjeuner, debout, face au mur. Ça existait dans les monastères, oui. Et au 20e siècle. Et le vendredi saint, ben, elle mange à genoux. C'était général, faut pas s'en faire là-dessus. Elle finit par renoncer à sa paillasse pour coucher sur le plancher ou sur la terre battue, avec pour oreiller un billot. Le sommeil de Sainte Marguerite Bourgeois est très court, mais toujours interrompu par des oraisons. Elle porte une discipline qui lui déchire un peu le corps. Hein? Je vous ai souvent parlé de ça. Et c'est pénible, ces pénitences, la nuit. Mais chaque matin, on voit la sœur Bourgeois qui est active et d'humeur égale. Elle a beau se mortifier, comme on le faisait beaucoup à l'époque, et encore récemment, ça ne change pas son humeur, elle est joyeuse. Quand arrivent les nouvelles filles à marier qu'on envoie de France, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes au Québec à ce moment-là, au Canada, elle court, comme elle dit, les quérir au bord de l'eau, c'est sa propre expression, c'est-à-dire qu'elle vient sur la rive du Saint-Laurent, l'endroit où accostent les barques qui arrivent de Québec. Elle amène les jeunes Françaises à la congrégation où les sœurs se dépouillent pour elles de leurs draps de lit pour les aider. Marie Barbier est élevée donc en partie par cette femme héroïque et Sainte Marguerite Bourgeois, puis en partie par sa propre mère, une femme courageuse et vertueuse. Et en 1670, elle assiste à 7 ans au mariage de son autre sœur aînée qui, à 16 ans, épouse Toussaint Baudry, l'ancêtre probablement des Baudry que l'on connaît. Elle aussi, elle va avoir une belle famille, un très grand nombre de descendants. Il faut dire qu'à ce moment-là, l'existence à Ville-Marie change beaucoup. Hein? Maison Neuve est partie, on l'a rappelé, lui, le fondateur, vous vous souvenez, hein? Qui tenait du héros et du saint, c'était un saint cet homme-là. Après 23 ans d'exercice au gouvernement de Montréal, on l'en renvoie comme incapable de la place et du rang. C'est ce qui est écrit. Oh ben d'accord, on y a mis des formes parce que on est toujours courtois dans l'ancienne France, mais ça change rien à l'insulte. D'ailleurs, il y a une religieuse qui a écrit, d'après les confidences de Marguerite Bourgeois, voici le texte. Maisonneuve prit ce commandement comme un ordre de la volonté de Dieu et repassa en France, non pour se plaindre du mauvais traitement qu'il recevait et revenir triomphant, mais pour y vivre petit et humble, ainsi qu'un homme du commun, un homme ordinaire. Au moment de son rappel, Maisonneuve projetait de faire construire au sommet de la montagne pour remplacer la croix qui avait été abattue de nouveau par les sauvages, une chapelle dédiée à la Sainte Vierge. Il laissait une petite ville fortifiée de 500 habitants. Ce qui lui a coûté le plus, hein, c'est de se séparer de ses compagnons des premières heures, comme ce monsieur Gilbert Barbier, mais particulièrement de Jeanne Mance, de Sainte Marguerite Bourgeois, sa compatriote et son amie, sa vieille amie, pouvait-il dire. Il devait se séparer de Jacques Lebert, des Charles Lemoine, et évidemment, comme j'ai dit, de Gilbert Barbier, qui depuis 23 ans avait toujours répondu à l'appel du travail, puis à l'appel de la prière, à l'appel des armes. 23 ans de ce coude à coude, cela compte pour deux hommes. Et Maisonneuve était partie, puis de beaux messieurs sont venus, et l'ont remplacé. Le lieutenant général de Tracy, qui sort toujours précédé de ses pages, et escorté ses gardes. Il y a le gouverneur de Courcelles, l'intendant Talon. Puis, avec Monseigneur de Laval, qui n'est pas le moins noble, même quant à la naissance, hein, c'était Monseigneur de Montmorency Laval, très grande famille, mais cela fait une splendide équipe de chefs. Ils habitent Québec, mais ils viennent inspecter Ville-Marie. Hein. Et ce sont d'ailleurs des hommes de grande valeur. Oui, ce sont des hommes de grande valeur. Je vous ai donc rappelé que Maisonneuve, fondateur de Montréal, en 1642, le 17 mai, après 23 ans, a été renvoyé en France. Il a été remplacé, comme je vous ai dit, par de beaux messieurs, le lieutenant général de Tracy, le gouverneur de Courcelles, l'intendant Talon, monsieur de Laval. Ce sont des hommes de grande valeur, vous ai-je dit. Ils ont amené des soldats. C'est le fameux régiment de Carignan. Comme je vous ai dit, mon ancêtre, Jean Beaugrand-Champagne, en faisait partie. Il a fondé Berthier, mon ancêtre, avec d'autres. Et ils étaient 4. Et ces soldats ont mis les Iroquois à la raison, puis ils ont imposé la paix. Ils ont amené aussi ces hommes-là, les puissants, de nouveaux colons, des techniciens, du matériel. L'intendant Talon, à qui rien n'échappe, visite donc la congrégation Notre-Dame et constate les progrès. Mère Bourgeois a acheté des terrains, il y a eu du défrichement, construction d'une ferme et d'une métairie, sans parler, bien entendu, de l'éducation des filles. Talon, la rue Jean-Talon, vous connaissez ça, c'est son stand de son honneur. Talon s'émerveille de ce que Marguerite Bourgeois peut faire avec rien ou presque. Monseigneur de Laval autorise d'ailleurs la sœur Bourgeois à enseigner et à répandre son institut dans tout le diocèse. Donc, à l'abri de la paix récente, règne une prospérité relative, on pourrait dire. La population atteint finalement 800 âmes. Il y a les allées et venues des soldats. À la prière de ses sœurs, Marguerite Bourgeois fait construire sur un terrain cédé par les Sulpiciens et contigu à celui qui entoure l'étable, une maison beaucoup plus spacieuse. Le nouveau logis comporte des pièces pour le logement des sœurs, pour leur exercice régulier, des pièces pour faire la classe et pour loger des pensionnaires. Il a 100 pieds de long et c'est Gilbert Barbier, le père de Marie, qui pose de bonnes solives de chêne. Marguerite Bourgeois, à un moment donné, doit se rendre en France pour obtenir ce qu'on appelle des lettres patentes, pour être à l'abri des lois puis des querelles judiciaires. Parce que elle les avait demandées, mais ça a dû se perdre dans les dédales des parchemins, et tout ça a été fait à la main. Elle est de retour à l'automne de 1672. Les petites élèves, carquillent leurs yeux pour regarder la sœur Bourgeois qu'elles ont presque oubliée, sont toutes jeunes. Et l'une de ses enfants, c'est Marie Barbier. Elle a 9 ans. Quand Marie Barbier venait à la congrégation de Notre-Dame, rien ne lui paraissait plus admirable que la sœur Bourgeois. Puis elle se promettait de lui ressembler quand elle serait grand. Un Sulpicien, à la carrure d'athlète, un ancien officier de cavalerie, M. Dollier de Casson, lui, trace les premières rues de Montréal. En dehors de la ville, se distribuent des concessions. On érige des forts. Comme le fort qui a donné son nom à une rue, la rue Dufort, c'est le fort qui est là, il reste encore 2 vieilles tours, devant le grand séminaire de Montréal, 2065 Ouest, rue Sherbrooke. Gilbert Barbier est un des premiers à s'établir, lui, à la Longue Pointe, dans l'est de Montréal. D'autres le rejoignent, il se forme là une sorte de banlieue où les Sulpiciens viennent dire la messe le dimanche dans une maison. Il y a aussi les coureurs des bois qui commencent leurs expéditions, hein, vous connaissez ça. Il y en a qui vendent de l'eau de vie aux sauvages malgré les défenses, et il y a des officiers qui se battent en duel. Mais il faut pas croire que c'est une... c'est comme aujourd'hui, non, non, les anciens colons restent pieux, probes, et aussi la plupart des soldats, d'ailleurs, ne demande au fond qu'à les imiter. D'ailleurs, il y a bien des soldats qui, tous les soirs, vont faire une géniflexion puis une courte prière devant la statue miraculeuse apportée par Sœur Bourgeois. Et Marguerite Bourgeois et ses sœurs s'adaptent aux besoins. Elles combinent les prières et les visites à domicile. Elles font toutes sortes de choses. Elles agissent sur les parents, par les enfants. Une éducation chrétienne donnée aux enfants, ça influence les parents, faut donc le rappeler, ça. Si on élevait chrétiennement nos enfants dans nos écoles, les parents se mettraient tout à coup à comprendre bien des choses. Elles influencent aussi les maris par les femmes. Ça marche, moi, il y a des femmes qui me disent qu'elles écoutent Rencontre spirituelle le soir à 10h et le mari tend l'oreille et finit par aller à la messe le dimanche. Ça m'a été écrit, ça m'a été dit même au téléphone. Et les sœurs, bien, elles préparent les candidats au mariage, des cours de préparation au mariage, quoi. Elles font de l'école, de la congrégation externe, de l'ouvroir, autant de foyers spirituels. Et tantôt, Marie Barbier imite ces femmes courageuses. Puis elle rassemble les petites filles de la Pointe, à l'autre bout de Montréal, de l'île de Montréal, pour leur faire l'école. Et tantôt, elle entraîne ses amis à s'amuser sans retenue. Il y a déjà dans son âme des impulsions contraires. Elle verra à combattre toute sa vie, d'ailleurs. Il y a une lutte en elle. Il lui arrive de mettre des péchés dans ses confessions puis de l'avouer en pleurant à sa mère. Elle croit entendre le Saint-Esprit qui lui donne de bons conseils. Et savez-vous ce qu'elle fait? Elle secoue la tête et se bouche les oreilles pour ne pas écouter le Saint-Esprit. Oh, ça devient grave, hein? Non, c'est pas grave, c'est une enfant, c'est une enfant. Elle affecte une espèce de cynisme en disant à ses compagnes qu'elle veut s'amuser pendant qu'elle est jeune et qu'elle se mettra plus tard au service du bon Dieu. Et tout à coup, ses propos lui font horreur, puis elle éprouve de longs remords. C'est une petite fille extraordinaire. Un peu avant l'époque de sa première communion, elle se trouve couchée seule dans la maison, dans la cabane, quand un jeune homme essaie d'enfoncer la porte, et Marie Barbier est très effrayée. Alors, elle tient le loquet pour barrer la porte, là. En faisant une prière à la Sainte Vierge, elle invoque l'aide de la Sainte Vierge, et elle se sent tout à coup une force décuplée, décuplée. Et là, le garnement n'arrive pas à ouvrir la porte, il décide de s'en aller. Le souvenir de ce danger rend Marie Barbier plus réservée. Finalement, elle passe 6 semaines à la congrégation Notre-Dame pour y préparer puis y faire sa première communion. Elle fait ensuite partie de la congrégation externe. Elle s'entraîne à réprimer ses sautes d'humeur. Et durant sa période de probation, elle voue une dévotion particulière à l'enfant Jésus. C'était très populaire à l'époque dans bien des milieux français. C'est sur la recommandation d'un prédicateur. Et ce théologien, bien sympathique, prétend que cette dévotion est très efficace pour obtenir quoi? Le pardon des péchés. Car les enfants, dit-il, ne gardent jamais rancune. C'est vrai ça. Hein? Le sentiment de culpabilité de Marie pour ses frivolités passées, puis sa foi très simple, la conduisent alors à une espèce de dialogue qui est toujours là avec l'enfant Jésus. Et il devient son recours et son aide dans les tâches quotidiennes, si bien qu'elle le met en charge du pain quand ses devoirs l'appellent ailleurs. Et selon l'abbé de Glandelet, son directeur, cette confiance a permis et permet à Marie Barbier, écoutez bien, d'accomplir des faits extraordinaires, guérison de malades, qui mange un petit pain en forme de galette qui a été fait en l'honneur de l'enfant Jésus. Vous direz, ça n'a pas de sens. Je raconte ce qui s'est passé d'après les témoins, multiplication de la farine et même d'autres vivres en temps de disette. Orage qui inonde le grenier puis qui laisse intact la même farine. Arrêt d'un incendie à l'île d'Orléans. Extraordinaire, hein? On peut s'étonner de cet esprit de confiance naïf, mais qu'on ne dise pas c'est bon pour les enfants. Moi, non, je suis pas d'accord. C'est l'esprit de l'Évangile, c'est l'esprit que Dieu nous veut en nous, hein, chez les plus savants d'entre nous. Et l'œuvre de Marguerite Bourgeois bien provoque l'admiration de tous, des colons au gouverneur. En 1884, Gilbert Barbier et sa femme, les parents de Marie Barbier, veulent contribuer aux bonnes intentions de Marie, leur fille, qui s'est consacrée à Dieu sous la protection de la très sainte Vierge en la congrégation Notre-Dame. Alors, ils donnent un terrain puis une maison de bois proche de l'hôpital. La même année, M. de Nonville, gouverneur général du Canada, vient à Ville-Marie. Il visite l'ouvroir de la Providence, comme on appelle ça, où une vingtaine de jeunes filles pauvres travaillent. Elles apprennent des métiers sous la direction des sœurs. Hein? Puis le séminaire des Sulpiciens leur envoie chaque jour une provision de pain. Le gouverneur écrit au ministre de la Marine, dont il relève, « Ah, j'ai trouvé à Ville-Marie, en l'île de Montréal, un établissement des sœurs de la congrégation sous la conduite de la sœur Bourgeois, qui fait de grands biens à toute la colonie, et en outre un établissement de filles de la Providence qui travaillent tout ensemble. Elles pourront commencer quelques manufactures de ce côté-là, si vous avez la bonté de leur faire quelques gratifications. » Et Marguerite Bourgeois a en somme fondé au Canada, si on peut dire, ce qu'on appelait l'école ménagère il n'y a pas si longtemps. Et ses novices apprennent à enseigner de sorte qu'elle est aussi initiatrice de l'école normale. Et en 1585, c'est Mgr de Saint-Vallier, qui est nommé grand vicaire à cause de la maladie puis du séjour en France de Mgr de Laval, qui vient à Ville-Marie, puis il admire les entreprises de Marguerite Bourgeois. Il visite la mission de la montagne, là, devant le grand séminaire aujourd'hui, sur rue Sherbrooke, là, les deux tours, puis il écrit, « Il y a une école d'environ 40 filles sauvages qu'on habille et élève à la française, en leur apprenant en même temps les mystères de la foi, le travail des mains, le chant et les prières de l'Église, non seulement en leur langue, mais encore dans la nôtre, pour les faire peu à peu, à notre ère et à nos manières. » C'est drôlement dit. Et aujourd'hui, bien, il est question d'une sainte, mais une sainte bien particulière, qui n'est pas canonisée, encore une autre qui n'est pas canonisée. Il y en a tellement qui sont pas canonisées. Marie Barbier, la première Montréalaise à être entrée chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, que tout le monde connaît, fondée par Sainte Marguerite Bourgeois. Ces sœurs qu'on reconnaissait dans la rue quand elles portaient leurs fameux costumes fantastiques. On ne voit plus ça maintenant. C'est disparu de nos rues, hein? On ne voit plus. La mission qu'elles avaient à la montagne, que Monseigneur de Saint-Vallier a admirée, où on apprenait aux Amérindiennes toutes sortes de belles choses, bien, c'est pas la seule mission entreprise par Marguerite Bourgeois, parce que dès le début de son apostolat, on la voit et on voit ses compagnes partir en canot sur les rivières qui sont alors les seuls chemins, les seules routes du Canada. Il n'y en a pas d'autres. Il faut se promener en canot. Et ses sœurs se promenaient en canot. Les sœurs devaient partir comme ça, comme faisait Marguerite Bourgeois elle-même, avec le plus petit bagage possible. Et Marie Barbier, mystique, tourmentée d'aspiration à la sainteté, elle a le pressentiment des principaux événements de sa vie. Elle s'en effraie comme du signe terrible d'une destinée hors de la norme. Elle est toute jeune et elle se voit déjà appelée à faire de grandes choses. Ça la gêne beaucoup. Elle est appelée à se rendre à la mission de la montagne, justement. Toujours celle qui est là, rue Sherbrooke, au 2065, mais ce n'est plus une mission amérindienne, c'est le grand séminaire. Il y a les deux vieilles tours, dont celle du côté est, servait à Marguerite Bourgeois, justement, à enseigner aux Amérindiennes, pour aller, en passant là, frôler cette pierre, regarder. Elle date de ce temps-là, et Marie Barbier y est allée, comme je vous ai dit. Là, les Sulpiciens, les Indiens, les Sauvagesses reçoivent Marie Barbier avec toutes sortes de démonstrations d'amitié, et la sœur qu'elle vient rejoindre se montre ravie de la voir. La comble de prévenance, Marie Barbier doit faire bonne contenance, évidemment. Il y a alors, à la congrégation Notre-Dame, puis en d'autres milieux de Ville-Marie, sous l'influence d'une espèce d'hallucinée, une crise assez pénible, et Marguerite Bourgeois, qui est si scrupuleuse en tout temps, est très affectée par la mort de 12 sœurs en 10 ans, bien Marguerite Bourgeois, septuagénaire, accablée de responsabilité, privée de conseils, se croit perdue. Elle se croit même abandonnée de Dieu. Elle fait comme une espèce de dépression, on dirait. Elle se croit damnée, même. Elle passe des nuits tragiques. Les saints peuvent avoir des dépressions, comme nous tous. Et les mêmes nuits, ben Marie Barbier, celle des sœurs qui, à beaucoup d'égards, lui ressemblait le plus, souffre des mêmes problèmes. Elle croit éprouver toutes les tentations, puis elle gémit un peu. Curieux. Et elle met par écrit cette résolution d'abandon de soi. Mon Dieu, mon Dieu. Pour votre pur amour et l'accomplissement des desseins adorables que vous avez sur votre chétive et indigne créature qui a tant abusé de vos grâces, après toutes les miséricordes que vous ne vous lassez point de me faire parmi mes misères et mes infidélités, souffrez donc, ô mon Sauveur, que je m'offre à vous en sacrifice pour faire et souffrir tout ce qu'il vous plaît dans le temps et l'éternité. Que je meure comme une misérable et infâme, sans secours, dans le mépris de toutes les créatures, oui, je m'abandonne à toutes sortes de morts pour l'expiation des péchés qui se commettent en si grand nombre, ne voulant vivre que pour souffrir sur mon corps et dans mon âme toutes les peines, tant intérieures qu'extérieures, qu'il vous plaira. Vous voyez la spiritualité de souffrance et d'offrande de souffrance à Dieu. Il est moins question d'amour qu'aujourd'hui. Mais ça demeure très beau et très héroïque. Il ne faut pas s'en moquer, je crois. C'est une évolution dans la spiritualité. Elle ajoute, « Je vous consacre ma volonté, ne me réservant rien, pas même mon salut. » Je trouve ça très beau. Au fond, personnellement, si je peux sauver 100 000 personnes et me damner, je préférerais me damner que de ne pas sauver 100 000 personnes. Elle a bien raison. Me semble. Mais c'est de l'aberration. On peut pas dire ces choses-là. Ça n'entre pas dans le plan de Dieu. C'est des idées. Elle a des idées comme celle-là. Mais qui dénote, il me semble, chez elle, quelque chose de sympathie. Elle dit, je renonce à toutes les consolations spirituelles, tant du ciel que de la terre, qui ne m'appartiennent point. C'est dur, ça, ne pas avoir de consolation. Je désire ne rien faire que par obéissance, que c'est beau, hein? C'est vraiment une sainte dans un sens, une sainte de l'époque. Elle ajoute « Très sainte Vierge, prosternez humblement à vos pieds, je vous supplie. Comme vous êtes ma digne supérieure, mon avocate et mon refuge, n'osant paraître devant votre divin Fils, eh bien je m'adresse à vous, afin que vous lui présentiez l'offrande et le sacrifice que je vous fais de ma volonté, pour ne vivre ni agir que pour vous. » Fait le 28 mai 1693, le dernier jour de l'octave du Très-Saint-Sacrement, c'est signé Marie Barbier, très indigne de porter votre sacré nom, Marie, et d'être dans une maison où je désire être la dernière, et dans le mépris de toutes mes sœurs, trop heureuse de n'être rien. C'est vraiment la spiritualité de l'humilité qui était très forte chez Sainte Marguerite Bourgeois. On devine ce qui pouvait en coûter à une chrétienne comme Marie Barbier d'écrire « Je renonce à toutes les consolations spirituelles ». Avoir passé donc les silhouettes furtives des sœurs qui sont toujours affairées à toutes sortes de tâches charitables, toujours abordables pour les pauvres, avoir Marguerite Bourgeois si humble à la fois et si ferme dans son autorité, avoir Marie Barbier qui transporte des sacs comme un homme, avoir la maison du silence qui était la maison de la congrégation, qui aurait pu imaginer les prodigieux bouleversements des âmes que tout ça va susciter. Elle est défendue et encouragée par M. Tronson à Paris, le supérieur des Sulpiciens. Elle est encouragée aussi par M. Delier de Casson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'autres, à Montréal, Marguerite Bourgeois. Et elle vaque à ses tâches toujours multiples. Elle se rend encore à Québec où Mgr de Saint-Vallier enlève aux sœurs la direction de l'hôpital pour la donner à des religieuses cloîtrées. La congrégation se consacrera donc à Québec à l'enseignement. Pourquoi elle est fondée? C'est l'occasion de plusieurs transferts de propriétés puis de transactions qui valent à Sainte Marguerite Bourgeois encore bien des tracas puis des humiliations. Et là, Marguerite Bourgeois a encore un grand projet, c'est élever à la congrégation même, à l'endroit du simple oratoire là, dont on avait dû se contenter jusque-là, elle veut édifier une chapelle où l'on pourrait garder le Saint-Sacrement, et c'est Marie Barbier puis son assistante qui l'approuve, et aussi M. Delier de Casson. Et de cette nouvelle dépense, Marguerite Bourgeois n'a pas le premier sou. Qui va payer? Vous vous souvenez de Jeanne Lebert, je vous en ai déjà parlé, et son dernier frère, Pierre, dont le père était devenu le plus riche négociant du Canada, là. Bien, Jeanne Lebert puis son dernier frère, Pierre, promettent la plus grande partie de l'argent nécessaire. Et en aidant à construire la chapelle des sœurs, Jeanne Lebert, vous vous souvenez, elle demande que l'on aménage derrière l'hôtel une cellule où il sera permis de passer sa vie dans la solitude absolue d'une recluse. Elle a été la première recluse. J'en profite pour saluer les recluses qui ont été si bonnes pour moi et qui enregistrent Radio Ville-Marie, Rencontre spirituelle, et qui écoutent ça le midi en mangeant, paraît-il. D'autres orages éclatent, dissipent, se réforment, l'époque est troublée. Puis une trentaine de sœurs, cela n'est peut-être pas toujours aussi facile à diriger qu'on pense, hein? Dans l'esprit de Marguerite Bourgeois, s'est installée une obsession. Les difficultés, les menaces, les revers, les deuils sont autant d'avertissements. Elle voit même ça comme des punitions. Curieux, hein? Quand Mgr Saint-Vallier fait sa visite pastorale, elle lui demande de la relever de sa charge de supérieure. Et Mgr de Saint-Vallier, l'évêque de Québec, l'accorde la requête. Alors, il y a un vote qui se fait. Marguerite Bourgeois souhaite être remplacée par Marie Barbier. On laisse passer quelques jours. Et le 8 septembre 1693 ont lieu les élections qui donnent ce résultat sur Marie Barbier, 30 ans, supérieure. Sur Catherine Charlie, assistante. Sur Marguerite Lemoine, maîtresse des novices. Sur Marguerite Garrier-Pie, dépositaire. Sur Marguerite Bourgeois, conseillère, admonitrice. Et Marie Barbier avait eu pressentiment de son élection. 40 ans après sa venue au Canada, la Marguerite Bourgeois, dans la congrégation qu'elle avait fondée, passait donc sous les ordres de la fille de son ami Gilbert Barbier. Elle passait au 5e rang. 2 mois plus tard, à la pointe aux trembles, Gilbert Barbier meurt. Après une vie exemplaire. C'était une sorte de saint que le père de Marie Barbier. Marie Barbier, je vous ai dit, avait 30 ans. Elle a écrit « Je désire ne rien faire que par obéissance, vous vous souvenez? Or, il lui fallait commander maintenant. » Elle a supplié Dieu de faire d'elle dans la congrégation la dernière des dernières, et puis là, elle est devenue supérieure. Elle se débat avec le démon. On dit qu'elle portait sous sa robe, dans le dos, une croix garnie de pointes de fer, et à chaque mouvement, ça l'écorchait. Mais il faut bien dire que Marie Barbier savait s'imposer, sans doute de grandes souffrances, mais elle a fait quand même, d'accord des excès, qu'elle va regretter, et le fait à relever... dans le Platchett contre la règle de 1694, l'année après son élection, elle demande qu'aucune austérité corporelle ne soit imposée, alléguant que cela doit être laissé au choix de chaque sœur conseillée par son directeur. Elle s'aperçoit qu'elle est allée un peu loin. C'était le temps, l'époque. Les premiers actes de Marie Barbier comme supérieure sont tout à fait dans la ligne suivie par Marguerite Bourgeois. Elle n'en dévira pas, d'ailleurs. Elle refuse d'admettre dans la communauté des candidates qui lui paraissent tièdes, qui n'ont pas la vocation, quoi. Qui sont pas prêtes à aller jusqu'au bout. Elle réprimande même les jeunes filles de la congrégation externe qui ont recommencé leur petite coquetterie de toilette. Elle est un peu dure, parfois. Elle fait commencer les travaux de la chapelle, là, que Marguerite Bourgeois souhaitait, pour laquelle Jeanne Lebert fournit l'argent. Elle passe des contrats avec le maître maçon Pierre Gay. Les maîtres charpentiers Allard, Archambault, Trudeau, des noms qui se retrouvent à Montréal. Et c'est peu après son élection qu'elle dispute sur la règle de la congrégation avec Mgr de Saint-Vallier, parce que Mgr de Saint-Vallier, lui, est incapable de concevoir la vie d'une religieuse en dehors du cloître. Alors, il réécrit la règle provisoire de Sœur Bourgeois. Plusieurs articles inapplicables à une congrégation enseignante qui œuvre dans une colonie naissante ne conviennent qu'à la vie du cloître. Ça n'a pas de sens et le prélat vient spécialement à Ville-Marie pour imposer aux religieuses des vœux solennels comme en font les femmes cloîtrées. Un vœu particulier d'obéissance même envers l'évêque. Il les menace même de les contraindre à accepter ses vœux par écrit. Mais heureusement, on réussit à persuader Mgr de Saint-Vallier de retarder la mise en vigueur du règlement jusqu'à son retour de France. Là, il va consulter M. Louis Tronson, supérieur des Sulpiciens, à Paris. Et heureusement, M. Tronson appuie les sœurs. Et le conseil de la congrégation, sous la direction de Marie Barbier, envoie un Platchett dont j'ai parlé très détaillé à M. Tronson. Et ce dernier obtient de l'évêque, Mgr Saint-Vallier, quelques changements. Mais la révision dure 4 ans, et ça crée bien des problèmes. Un jour, Mgr Saint-Vallier écrit au fermier du domaine pour demander une exemption de taxes sur une propriété des sœurs de l'île Saint-Paul. Il leur dit, écoutez bien ça, c'est très beau. Je n'exagérerai point, messieurs, en vous assurant qu'un établissement aussi nécessaire pour l'instruction des filles que l'est celui des sœurs de la congrégation dans mon diocèse, a été fait comme par miracle, par une pauvre fille qui, avec une pièce de 30 sols, c'est rien, commença cette maison pour les établir. Elles ont été longtemps sans aucun revenu, vivant du travail de leurs mains, dans les villes et dans les missions où elles sont employées. Le revenu qu'elles ont fait par leur industrie, par leur travail, si vous voulez, est si peu de choses pour le soutien de 80 sœurs répandues dans mon diocèse, qu'en vérité, continue l'évêque, si vous les voyez de près comme je le fais, vous auriez plus envie de leur donner que de leur demander. C'est tout un éloge. Hier, une sœur de la congrégation de 92 ans, sœur Cécile Auger, m'a téléphoné si gentiment. Ça fait plaisir. Alors Marie Barbier, qui est supérieure générale, pourrait-on dire, elle a beaucoup de vénération pour Marguerite Bourgeois, comme d'ailleurs toutes les sœurs. Et Marie Barbier est vraiment la flamme maintenant de ce foyer de la congrégation Notre-Dame. Elle est parvenue à s'imposer, après toutes sortes de luttes acharnées contre son tempérament, contre elle-même, à s'imposer un des traits essentiels des vrais membres de la congrégation, selon l'idéal de Marguerite Bourgeois. Ce trait, c'est l'humilité vraie, l'humilité complète, l'humilité sainte. Bien qu'elle soit l'une des plus anciennes et qu'elle ait été supérieure, elle ne demande plus qu'à obéir. Elle écrit tout simplement, quand elle a terminé ses années de supériorat, « Je ne trouve la tranquillité de l'esprit et la paix du cœur que dans l'obéissance. Dans les emplois même les plus incompatibles avec mes goûts, appuyé sur l'obéissance, j'ai souvent trouvé un secours extraordinaire et tout à fait surprenant. Suppléer sans murmure aux emplois des autres. Accepter de bon cœur toutes les humiliations et la pénitence qu'on pourrait nous imposer. Ou plutôt être toujours prête à tout. Ce doit être la devise d'une sœur de la congrégation de Notre-Dame, écrit Marie Barbier. En 1700, c'est l'année de la mort de Marguerite Bourgeois, Marie Barbier est encore bien jeune, a été hospitalisée à l'Hôtel-Dieu de Québec pour se faire guérir d'un cancer qu'elle avait au sein. Elle avait eu cette tumeur à la suite d'un excès de pénitence alors qu'elle portait sous sa robe près du sein un instrument à pointe de fer. Et Michel Sarrazin, aussi habile chirurgien, écrit-on à l'époque, que savant médecin, pratique l'opération chirurgicale le 29 mai 1700. C'était peut-être la première opération chirurgicale du cancer au Canada. Mère Juchereau de Saint-Ignace, très illustre, nous indique dans les annales que Marie Barbier s'en retourna à Montréal parfaitement guérie. Or, sœur Marie Barbier occupe par la suite plusieurs postes administratifs, tout en continuant d'enseigner puis de travailler jusqu'à sa mort, qui est survenue, comme je vous disais au début de l'émission, le 19 mai 1739. Elle était âgée de 76 ans. Marie Barbier avait l'amitié de l'enfant Jésus et la protection de la Sainte Vierge. L'enfant Jésus, nouveau confiant, humble, serviable, toujours soumis, disait-on. En récompense, on disait qu'il facilite à ses amis l'accès à la vie éternelle. Alors, on pourra dire que c'est un bon marché, puis que Marie Barbier a conclu une affaire fructueuse, mais non. Mais non, c'est pas cela. C'est pas ce genre de troc qui habite une âme sainte comme ça. Ce n'est pas ce pacte simpliste que cette mystique qui est Marie Barbier a conclu avec le ciel, sa foi, sa ferveur. Ce n'était pas celle des amolis puis des tièdes et des vaincus de la vie puis des résignés, non, non. Le beau mérite, celui des gens qui n'ont pas de lutte à soutenir ni de sacrifice à s'imposer, c'était pas le cas. Toute création véritable dans une vie humaine, c'est le fruit d'une victoire. Quand on pense qu'un artisan qui veut créer quelque chose, c'est une victoire sur la matière, l'écrivain, il accomplit une victoire sur l'irréflexion, il faut qu'il réfléchisse. Puis dans l'ordre spirituel, ben c'est une victoire sur le péché. Je le dis dans ce monde où on dit qu'il n'y en a plus de péché. C'est sur le péché. Et si la matière ne résiste pas, si l'on se contente d'une pensée floue, si l'on n'empoigne pas le faisceau des péchés, comme un nœud de vipère, vous vous souvenez de ce roman, pour l'extirper, il n'y a que fadeur. La vie chrétienne devient fade, devient un artifice. Le chef-d'œuvre de la sainteté n'est pas possible. C'est une lutte, et Marie Barbier appartient à cette classe de saints dont la besogne, comme l'écrit si bien Robert Humilly, est moins de sarcler les péchés mignons que de déraciner des péchés capitaux. Elle avait été une sanguine, une fille de forte vitalité qui avait dû jour après jour, puis nuit après nuit, refréner des impulsions puis refouler des atavismes. Et dans cette bataille de géants, eh bien Marie Barbier s'était senti seul tant de fois et si près de perdre pied, mais c'est là, justement, qu'il mérite. Et après toutes ces journées, toutes ces nuits, tous ces emportements, toutes ces prières, toutes ces pénitences, toutes ces supplications, tous ces tremblements à la pensée implacable de la pureté que Dieu exige de nous, ah, après toutes ces insomnies, toutes ces sueurs, et même tous ces flagellements, tous ces prosternements sur la terre nue, tous ces renoncements à tout, et même à la grâce, hein, elle a du butin, comme dit Rumi, à présenter à Dieu. Elle n'arrive pas tout à fait les mains vides. Après avoir de si près côtoyé l'abîme, on peut oser lever les yeux vers la croix de Jésus, vers les crucifix. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle toujours du Christ ressuscité, puis on a raison. Mais on oublie tellement le Christ en croix, crucifié par amour. Et c'est le chemin naturel et vrai. Pour suivre Jésus, il faut porter sa croix, il le dit lui-même. Quel est le butin de Marie Barbier? Quelle est son offrande? Eh bien, elle a maté sa chair, elle a rabaissé son orgueil, elle a étouffé sa colère. Elle a châtié aussi ses petites défaillances. Elle a renoncé à des amitiés pour aller travailler là où on l'envoyait. Elle avait de la coquetterie, puis elle l'a tout humilié. Tous les élans d'une riche nature qu'elle avait, elle l'a domestiqué, tout ça. Elle l'a soumis tout ça, puis elle a offert tout ça à Dieu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et d'amour. Et c'est ça le chemin de la sainteté. Et ça s'est fait, ça, ici, à Montréal. Oui, ici, au Québec. Au Canada. J'ai le goût de demander à Marie Barbier qu'elle vienne consoler toutes les sœurs âgées qui ont des problèmes actuellement dans la congrégation Notre-Dame parce qu'elles vivent très vieilles. Puis parfois, elles ont des difficultés puis des problèmes. Hein, qu'elle vienne les assister. Et qu'elle encourage aussi toutes les sœurs de la congrégation à être fières de ce qu'elles sont. À être heureuse de ce qu'elles ont été, à être très heureuse de se donner toujours jusqu'au dernier moment à celui qu'elles ont épousé par leur vœu il y a tant d'années. Merci, mes sœurs. Je vous connais beaucoup, j'en connais beaucoup des sœurs de la congrégation, et je vous aime beaucoup, je vous salue, je vous dis à bientôt, j'espère.